crime, une histoire. 36 Quai des Orfèvres.
Jean-Louis Lahaye.
Bonjour et bienvenue dans votre série de l'été. Un crime, une histoire. 36 Quai des Orfèvres. Nous allons nous plonger ensemble dans de grandes affaires criminelles françaises. Du 19e et du 20e siècle. Je vous emmène à Paris au 36 Quai des Orfèvres. Je vous emmène à Paris et dans la France entière. Certaines d'entre elles sont des affaires célèbres. Toutes ont défrayé la chronique et portent leur part d'une histoire plus vaste. Bien plus qu'un crime, bien plus qu'un criminel, c'est la société, l'histoire des hommes et des femmes dans leur époque qu'elles racontent. Il n'y a pas de mort dans l'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui. Pas de mort et pas de sang. Bon, je me suis dit que ça nous changerait un petit peu. Je vais vous parler d'un vol. Un vol, oui. En ce début de XXe siècle, les journaux présentent le compte-rendu des plus grands crimes. Ils connaissent les goûts de leurs lecteurs et de leurs lectrices pour le crime de sang. Et pour les figures de criminels. Mais un vol, ça les intéresse moins. Ces lecteurs du début du XXe siècle. Sauf quand il s'agit d'un vol extraordinaire. Et il faut dire que le vol et la figure du voleur ont acquis il y a peu leur lettre de noblesse. Quelques années plus tôt, Maurice Leblanc a donné naissance à l'un des héros les plus célèbres de la littérature policière, Arsène Lupin. Nous voici à Paris, en 1911, nous sommes dans la capitale des arts et de l'art de vivre, des plaisirs et des élégances. Le tout Paris assiste au ballet russe de Sergueï Diaghilev. On vient voir danser Nijinsky. Paul Poiret, le couturier, présente sa nouvelle collection. Et sur le quai d'Orsay, pont de l'Alma, au salon des indépendants, les peintres cubistes font sensation. Sur les Champs-Élysées, les automobiles côtoient les calèches, les omnibus et les bicyclettes. Et ça se passe aussi dans les airs, dans leurs appareils si fragiles. Les pionniers de l'aviation conquièrent le ciel. La première compétition aérienne, la première course d'avion, comme on disait alors, le Paris-Madrid, est organisée au mois de mai 1911. Mais ce qui frappe surtout cet été-là, c'est la chaleur. Une chaleur terrible. Une canicule meurtrière qui fera plusieurs milliers de morts. Des enfants surtout, des nourrissons et des enfants en bas âge. Nous sommes au mois d'août 1911, le mardi 22 août. Un peintre, un certain Béroux, se rend au Louvre. Louis Béroux est un peintre d'une certaine notoriété, c'est un habitué. Il fait partie de ces artistes accrédités, les peintres qui installent leur chevalet, qui font des copies de grands maîtres, ou viennent chercher un peu d'inspiration. Béroux peint des intérieurs de musées, il en a fait sa spécialité. Il fait encore frais, la nuit a redonné un tout petit peu de fraîcheur, un peu de répit. Il doit être 7h du matin, à peine plus. Les peintres accrédités peuvent entrer avant l'heure de l'ouverture. Béroux gravit les marches de l'escalier de marbre qui mène au salon carré, lestement. Il est de bonne humeur. À cette heure, il n'y a personne. On a presque le Louvre pour soi. Le salon carré, c'est la salle des maîtres italiens, de la Renaissance. Comme chaque fois, Béroux va prendre sa place et installer son matériel devant la Joconde, Mona Lisa. Et comme beaucoup, il est irrésistiblement attiré par son charme et par son sourire énigmatique. Mais Béroux sourcille. La Joconde, elle n'est pas là. Enfin, plus là. À gauche, il y a l'allégorie de Titien. À droite, les fiançailles de Sainte-Catherine, du Corrège. Au-dessus, le repas chez Simon, à Véronèse, gigantesque. Et au milieu, il y a un grand vide. Enfin, pas tout à fait. Il y a 4 crochets sur le mur rouge, les crochets de fonte, qui servent à fixer le cadre au mur. Et puis rien d'autre. Il n'y a pas de quoi s'inquiéter. En tout cas, il n'y a pas de quoi penser au pire. Béraud avise un homme en redingote et bicorne. C'est la tenue réglementaire des gardiens du Louvre. Il déambule un peu plus loin dans la salle voisine, la galerie d'Apollon. Oh, Béraud le connaît bien, évidemment. Et puis le gardien, il en est rassurant. Madame Lise ? Oh ben, elle doit être à la photographie, monsieur Béraud. Madame Lise, c'est le nom qu'ils lui donnent parfois entre eux, les gardiens et les habitués. Elle serait à la photographie, Madame Lise. Le Louvre fait photographier ses œuvres, oui, bon, c'est vrai, mais la Joconde, ça fait un petit temps qu'elle a été photographiée, non? Et pas qu'une fois. Ça le laisse sceptique, Béraud. Il s'en retourne à sa place, devant son chevalet. Il a du travail. Une chance qu'il ne comptait pas seulement peindre la Joconde. Il y a le Titien et le Caravage, oui, il s'installe. Il dispose ses pinceaux et ses couleurs, mais il ne peut s'empêcher d'y penser. Ça lui trotte dans la tête. Il finit par retourner chez le gardien, et il insiste. Le gardien soupire, mais bon, il va quand même aller au renseignement.
« Oh, si ça peut vous apaiser, monsieur Béraud !»
Et il ne va pas être apaisé, Béraud. Quelques minutes plus tard, il y a un son strident et long, un sifflet et des pas. Ça vient de partout, ça marche partout. Il y a d'autres coups de sifflet, ça se précipite. Le gardien revient avec son supérieur, avec le gardien-chef et le conservateur. Il se précipite vers Béraud, devant le chevalet. Il y a ce vide, sur le mur rouge et ses quatre crochets. Oh, il est pâle, le conservateur. Blanc comme son col, blanc comme sa chemise. Il ne dit rien. Il a le souffle coupé. Il parvient à articuler pour le gardien-chef. Ne laissez sortir personne et fermez toutes les issues. Non, la Joconde n'est pas à l'atelier photographique. La Joconde a... Enfin, le conservateur devrait le dire, mais il n'y parvient pas. C'est imprononçable. On a volé la Joconde. Les issues sont fermées, plus personne ne sortira. On va la retrouver, non? On cherchera et on trouvera. Le voleur ou les voleurs, ils doivent encore être là, dans les murs du Louvre. Ils n'ont pas pu l'emmener comme ça, sous le bras, non? La Joconde, ce n'est pas une toile. Ils n'ont pas pu l'enrouler. Le conservateur s'éponge le front avec son mouchoir. Il est tellement pâle. C'est un panneau de bois et c'est pas petit, alors ça ne passe pas inaperçu.
Le préfet de Paris, Louis Lépine, vient d'arriver. C'est un petit homme mince, sec, un peu voûté, le front dégarni. Il a son âge. Il règne sur Paris depuis près de 20 ans. Il est avec le sous-secrétaire d'État aux Beaux-Arts. Ils ne disent rien. Ils sont atterrés. Et le conservateur? Qu'est-ce qu'il peut dire? Mais qu'est-ce qu'il peut faire? Il se perd en explications. Il essaye de convaincre.
Monsieur Béraud est arrivé à l'ouverture et il était le premier arrivé dans le salon carré ce matin. Le vol a dû avoir lieu hier, lundi, jour de fermeture au public.
Oh, il sait qu'il joue sa tête. Il essaie de rester digne, mais il n'emmène pas large. Et le sous-secrétaire d'État, il n'a pas encore prononcé un mot. Enfin, presque. Il a dit, en essayant de maîtriser sa colère,
« C'est l'un de nos trésors nationaux, monsieur le conservateur, vous entendez ?»
La Joconde. Le roi François Ier l'avait acheté pour une petite fortune au peintre florentin, à Léonard de Vinci, voilà quelques 400 ans. Le tableau était passé de souverain en souverain, jusqu'à Bonaparte, qu'il avait fait accrocher dans sa chambre à coucher aux Tuileries, avant de le céder au Louvre. Le sous-secrétaire d'État sait que ça va lui retomber dessus. Il est plongé dans ses pensées. Ça va remonter plus haut, certainement. Et la presse? Oh, la presse, elle va se déchaîner. Est-ce qu'il joue sa tête, lui aussi? Est-ce qu'on se contentera du conservateur? Il y a deux hommes qui les rejoignent. Deux hommes en noir. Ces hommes-là, ils sont toujours en noir, quel que soit le temps, même sous le soleil. Lépine leur fait un signe. Il les désigne au sous-secrétaire d'État.
Je vous présente le commissaire divisionnaire Amar et l'inspecteur principal Lebrun.
Octave Amar, le chef de la Sûreté parisienne, le chef du 36, du quai des Orfèvres, le premier policier de Paris, pour ne pas dire le premier policier de France. Il a son âge, lui aussi. Il est proche de la retraite, comme le préfet. De l'âge, oui, mais aussi de l'expérience et de l'autorité. On va en avoir besoin. Et avec lui, Henri Lebrun, l'un des meilleurs inspecteurs du 36. Le préfet lui confie l'enquête, avec des moyens, des hommes.
Vous aurez un peu plus de 50 inspecteurs, commissaire. Je suppose que ça devrait suffire, non ?
Amar remercie. Un peu plus de 50 inspecteurs, c'est bien. Pour le Louvre et pour tous ceux qu'il va falloir interroger. C'est grand, le Louvre. Il va falloir explorer quelques kilomètres de galeries, d'escaliers et de greniers. Et il a une première demande. Il faut aller vite.
Monsieur le conservateur, vous seriez assez aimable si vous pouviez me fournir une liste des gardiens, des ouvriers, des artisans, enfin de tous ceux qui ont accès au Louvre le lundi.
Le commissaire Amar repart avec l'inspecteur Lebrun. D'un pas assuré et serein, il sait où il va, Amar, et comment y aller. C'est la fin de la matinée, déjà, et il fait chaud. C'est le soleil de midi qui s'annonce, dans une chaleur implacable. Hommes, femmes, enfants, tout le monde s'abrite comme il peut dans un coin d'ombre, sous un arbre, une porte cochère, ou mieux, dans le métro.
La nouvelle s'est répandue. Les principaux journaux parisiens ont envoyé leurs reporters.
Bien sûr que ça allait faire du bruit. Ça fait déjà du bruit.
Les rotatives se mettent à tourner. La Joconde fera la première page.
La Joconde à la une. La Joconde partout. On annonce des contrôles aux frontières, dans les gares et dans les principaux ports du pays. Amar et Lebrun ont installé leur bureau dans le musée. Là où ils peuvent, dans les mansardes, ce sera plus simple et ça ira plus vite. Le conservateur leur a fait porter la liste que Amar lui a demandée. Il y a près de 250 noms. Ils ont donc, oui, ils ont du pain sur la planche. Toute l'après-midi, Amar et Lebrun, assistés de plusieurs inspecteurs, les reçoivent. Un. Ils ont laissé tomber la veste. Ils sont en gilet et en bras de chemise à présent. Il fait chaud, terriblement chaud. Il fait étouffant. Les toits de zinc et de plomb font du Louvre, dans les mansardes, une véritable fournaise. Mais voilà qu'on frappe à la porte. C'est un des hommes du 36. Il est essoufflé. Il tient un cadre en main. Oui, et une sorte de boîte en verre.
Commissaire, commissaire, on l'a retrouvé.
Le cadre, on ne peut pas se tromper. Le nom du tableau est écrit dessus, calligraphié en bas du cadre, dans un cartouche. Un gardien vient de le retrouver dans un escalier, pas loin du salon carré. Un escalier de service comme il en existe au Louvre, beaucoup. On a retrouvé le cadre et la boîte en verre. Une sorte de boîtier qui doit le protéger, qui entoure le cadre. Pour le protéger de quoi ? Pas du vol, apparemment. Non, pas du vol, mais des déprédations. De l'acte d'un fou, d'un maniaque. On a retrouvé le cadre, la boîte en verre, bien. Mais pas le portrait, pas la Joconde. Amar s'éponge le front, il s'éponge la nuque. Enfin oui, c'est quelque chose, un début de quelque chose. Lebrun approuve.
Va y avoir du travail pour Bertillon.
Le voleur ou les voleurs ont touché le boîtier de verre et le cadre certainement. Ils ont dû laisser des empreintes. Ces empreintes de doigts qui deviennent si précieuses, dit-on. Ce Bertillon, auquel pense l'inspecteur Lebrun, c'est Alphonse Bertillon. L'épine vient de lui confier le service de l'identité judiciaire. De quoi ficher les criminels et les retrouver avec l'empreinte de leurs doigts.
Oui, il pense à Bertillon, Lebrun.
Il va falloir lui apporter ça. Lebrun y pense, pas Amar. C'est un sceptique, Amar. Et un ancien. Lebrun et lui, ils ne sont pas du même siècle, on dirait. Il ne peut pas. Il ne s'y fait pas à ces méthodes-là.
C'est ça, inspecteur, allez-y, on ne sait jamais. Et tant qu'il y est, il trouvera peut-être les empreintes de François Ier ou de Bonaparte.
Il est tard, ils sont fatigués et harassés par une journée passée dans la chaleur, dans la moiteur. Et ils n'en sont qu'au début pourtant. Il va falloir continuer demain et sans doute après-demain. Il est tard et l'air est toujours aussi étouffant. Le soleil a beau se retirer, ça ne change rien.
La Momière.
Un crime, une histoire, 36 Quai des Orfèvres.
Jean-Louis Lahaye.
Aujourd'hui dans Un crime, une histoire, 36 Quai des Orfèvres, je vous parle d'un vol extraordinaire. Enfin, le vol d'un objet extraordinaire. Rien de moins que la Joconde. Le chef-d'œuvre de Léonard de Vinci. La France, l'Europe, le monde entier ne parlent plus que de ça. C'est le chef de la sûreté, le chef du 36, Octave Hamard, qui mène l'enquête, avec l'inspecteur Lebrun. Et plus de 50 inspecteurs pour les aider. On vient de retrouver le cadre du tableau et le verre qui doit le protéger. Mais la Joconde, non. Mais est-ce qu'il n'y a pas des empreintes digitales sur le cadre, sur le verre? Voilà qui pourrait peut-être faire avancer l'enquête. Nous sommes le 23 août 1911. L'inspecteur Lebrun donne des ordres. Il organise le défilé des employés, des ouvriers du Louvre. Des artisans. Le défilé a commencé depuis plusieurs heures. Ils sont un peu plus de 250. Ils posent chacun leurs 10 doigts, la dernière phalange, le gras du doigt sur une éponge imbibée d'encre. Ils apposent leurs empreintes sur une fiche. Bertillon a relevé des empreintes, oui, mais surtout deux belles traces de pouces sur le boîtier en verre, de chaque côté. Deux pouces. Lebrun essaye de faire comprendre à Hamard ce qui se passe, mais on dirait qu'Hamard préfère ne pas comprendre. Enfin, il comprend que ça ressemble à un grand cirque et que ce n'est pas comme ça qu'on mène une enquête. Mais bon, il faut trouver à qui appartiennent ces deux traces de pouces, commissaire. Le plus simple, c'est d'abord de voir s'ils n'appartiennent pas à quelqu'un du Louvre. Vous comprenez ? Hamard hausse les épaules. Mais voilà qu'un gardien s'approche. Avec leur bicorne, on les voit arriver de loin. C'est pour le commissaire. Téléphone, dans le bureau du conservateur. C'est le préfet Lépine. Il vient aux nouvelles et il en a à donner aussi.
Devinez de quoi on a parlé au Conseil des ministres ce matin. Alors je ne veux pas vous presser, commissaire, évidemment, mais sachez que le président lui-même, le président de la République, aimerait être tenu au courant de l'avancement de l'enquête. Vous me comprenez, n'est-ce pas ?
Hamard est poli. Il dit oui. Oui, monsieur le préfet. Bien sûr, monsieur le préfet. Oui, parce qu'il faut bien. C'est comme ça, le préfet Lépine, il lui dit « Je ne veux pas vous presser », comme un ordre qu'on donne, mais avec ce qu'il faut de courtoisie, par la négative, en douceur, pour ne pas dire ce qu'on veut dire. Maniez-vous le train, commissaire ? Hamard se retourne. Il y a un gendarme dans l'encadrement de la porte. Qu'est-ce qu'il attend ? Et qu'est-ce qu'il veut ? Il y a un jeune homme avec lui, une vingtaine d'années, tout au plus. Hamard raccroche. Et le garçon s'approche, timidement. Il tient un chapeau dans les mains, un canotier.
Je pense pouvoir aider la police.
Le commissaire sourit, un demi-sourire. Il pense, comme des dizaines d'autres, comme des centaines d'autres. Depuis la veille et depuis le matin, plus encore, ça ne s'arrête plus. Le 36 n'a jamais reçu autant de courriers. Sans parler de ceux qui écrivent aux journaux. Ils ne savent plus où donner de la tête. Il y a aussi les télégrammes et les appels téléphoniques. Qui c'est ce jeune homme au canotier ? C'est un domestique ? Il est en service chez un homme du monde ? Et la Joconde, alors ?
Je l'ai vu, monsieur le commissaire, comme je vous vois, je vous le promets.
Il est tombé sur le tableau, dit-il, en s'occupant du linge de monsieur, ou dans son armoire, avec d'autres tableaux. Alors, bien sûr qu'il l'a reconnu, avec ce si beau, ce mystérieux sourire. Hamard, ça le laisse sceptique. Mais il faudra bien y aller. Enfin, au moins envoyer un inspecteur. Le petit, il a l'air sincère, non ? Il risque gros, non ? Il peut perdre sa place et il ne demande pas d'argent. Combien sont-ils, ceux qui proposent leur service, leur révélation, moyennant une petite gratification ?
Il faut dire que les journaux donnent le ton. L'illustration promet 45 000 francs à celui qui ramènera la Joconde au journal. C'est une somme rondelette quand même, 45 000 francs. Et le matin, est-ce qu'on ne serait pas un peu moqueur au matin? Il promet 5 000 francs. Mais pas à n'importe qui, non. Aux occultistes, aux voyants et aux chiromanciens qui pourront dire où elle se trouve. Mais ce petit, oui, il n'a pas parlé de primes, de choses du genre, et si c'était du sérieux? Amar envoie un inspecteur. Il revient quelques heures plus tard, en fin de journée. Il tient quelque chose sous le bras, empaqueté. La forme d'un tableau, de belles dimensions, on dirait oui. Est-ce que c'est ça? Oh, il n'a pas l'air pressé. Il les rejoint dans le bureau, sans hâte. Il dépose son paquet, l'ouvre. « Je suis pas expert, commissaire, mais quelque chose me dit que c'est une copie, non ?»« Oui, une copie, récente, brillante, d'huile et surtout elle n'est pas peinte sur un panneau de bois, mais sur une toile. » Amar pousse un long soupir et il ne dit rien, plus rien. Il sort son mouchoir, il s'éponge le front et la nuque et ce n'est pas qu'il regrette de l'avoir envoyé, son inspecteur. Ce n'est pas qu'il a envie de s'en plaindre, non. Il songe seulement à ce qui va venir, à ce que ça annonce. Une copie de la Joconde, des copies. Il va y en avoir d'autres, certainement. Lebrun est tout prêt. Il s'occupe des empreintes, encore, parce que le défilé est loin d'être terminé.
Lebrun, il faudra veiller à renvoyer une circulaire dans tous nos commissariats. Qu'on ne nous dérange pas pour une Joconde de moins de 77 cm sur 55. C'est sa taille, n'est-ce pas? Ou pour une Joconde peinte sur toile.
Il a vu juste, le commissaire. Les jours suivants, la Joconde est signalée aux quatre coins de la France et au-delà. Le lendemain, le 24 août, vers 10h, le téléphone sonne. C'est la gendarmerie au port de Cherbourg. Deux voyageurs viennent d'être arrêtés avec un colis suspect. Ils étaient sur le point d'embarquer.
Le Kaiser Wilhelm, commissaire. Un bateau allemand, en partance pour New York.
Ah oui. Et si en plus ce sont les Allemands qui sont derrière tout ça? Bien sûr qu'on y pense. Si les Allemands cherchaient à humilier la France, tout est possible, non? Mais qu'est-ce qu'ils transportent, ces deux voyageurs? Le colis? C'est un grand caisson en bois. Fin. Dedans? La Joconde. C'est Lebrun qui a décroché et il perd patience.
77 centimètres, pas 87. Non, vous pouvez les laisser partir, brigadier.
Quelques heures plus tard, c'est au tour de Saint-Nazaire. Les gendarmes viennent d'arrêter un couple. Ils allaient s'embarquer pour l'Amérique du Sud, Buenos Aires. Qu'est-ce qu'il y a dans leur mal de voyage? La Joconde. Encore la Joconde. Mais attention, plus petite, ou plus grande, ou plus large, ou peinte sur toile. Amar, il se sent harassé. Il est sur les nerfs, le commissaire.
Mais qu'est-ce qu'ils ont tous à vouloir une copie de la Joconde?
Ouais, on dirait qu'ils se sont donné le mot. Mais ce n'est pas fini. Le lendemain, le 25 août, cette fois c'est un télégramme qui parvient au conservateur. De plus loin, d'Espagne. Le conservateur, il ne sait pas. Il ne sait plus s'il peut se réjouir. Il porte le télégramme chez Amar, dans les combles, sous les toits. Il fait une chaleur étouffante. Il arrive enfin en sueur.
La police espagnole vient d'arrêter deux Français sur la route du Portugal.
Sur la route du Portugal. Direction Coimbra, disent-ils. Dans leur bagage, protégé dans une caisse en bois, soigneusement, la Joconde. C'est assez, non? Pour Amar, pour Lebrun, c'est assez. Mais le conservateur, il ne peut s'empêcher de trouver cela étrange, oui.
Étrange? Demande le commissaire, visiblement agacé. Mais enfin, commissaire, toutes ces Jocondes qui apparaissent brusquement. Mais qu'est-ce que vous voulez dire?
Amar sent que ça monte et il sent qu'il ne va plus pouvoir se contrôler. Lui qui est si poli, tout en retenue et en courtoisie, et eh bien oui, il perd patience là.
Vous allez me faire le coup du grand cambrioleur de génie, c'est ça? Vous allez me parler d'Arsène Lupin peut-être? Ou d'un disciple du grand homme?
Mais bien sûr qu'il y pense, le conservateur. Oui, mais il n'y a pas que lui qui y pense. Ces Jocondes qui apparaissent aux quatre coins de la France et plus loin. On dirait Lebrun y pense, lui. Lui et d'autres.
Et si c'était de la fumée, de quoi titiller les enquêteurs? Cette manière, disons, joueuse, espiègle, d'Arsène Lupin. Non, d'accord, pas Arsène Lupin, bien sûr, mais un admirateur. Est-ce que le Daily Mail de Londres n'a pas titré « Il n'y a qu'un Arsène Lupin pour avoir accompli un tel exploit » et pour ajouter « Il ne manque plus que notre Holmes pour tirer tout cela au clair ». Pour un mar, c'en est trop. Monsieur le conservateur, vous voulez que je vous dise pourquoi ce n'est pas un Lupin ou un admirateur ou un disciple ou tout ce que vous voulez qu'il a volé, votre Joconde? Parce qu'un voleur qui a l'amour du bel ouvrage, un voleur qui aurait un peu de savoir-faire, ne s'en serait pas pris à un musée aussi peu surveillé et aussi mal surveillé que le Louvre.
Amar, il a lu la presse comme tout le monde. On parle du vol, oui, bien sûr. Des progrès de l'enquête, mais jour après jour, page après page, c'est la garde des musées qui affiche ses faiblesses. Et le premier d'entre eux, le Louvre, ce jour-là, le jour du vol, combien étaient-ils, les gardiens? Eh bien, ils étaient 12. 12 pour surveiller le musée du Louvre. Et pour surveiller des tableaux innocemment, candidement suspendus au mur, sans un cadenas. Alors non. Le voleur de la Joconde n'est pas Arsène Lupin. Et lui n'est pas Sherlock Holmes. Amar, on dirait que son mouvement d'humeur l'a enivré. Il ne peut plus s'arrêter.
C'est une passoire, votre musée. Il n'intéresserait pas un voleur qui aurait un tant soit peu de dignité. Vous comprenez?
Amar et Lebrun quittent le Louvre. Le conservateur, il le laisse planter là. Il sourit Amar. Il sourit parce que ça lui a fait du bien et ça l'a mis de bonne humeur. Cette enquête va être compliquée. Elle est déjà compliquée. Et il a besoin de se changer les idées.
Et si nous allions nous rafraîchir avec une bière, Lebrun? On en a besoin. Allez, c'est parti. Je vous invite chez Boffinger.
La Momière.
Un crime, une histoire. 36 Quai des Orfèvres.
Jean-Louis Lahaye.
Aujourd'hui dans Un crime, une histoire, 36 Quai des Orfèvres, nous revenons sur le vol de la Joconde au Louvre en 1911. Les jours passent, le monde politique et la presse se sont emparés de l'affaire. Les jours passent, mais l'enquête piétine. On croit la voir partout, la Joconde. On la signale aux quatre coins de la France et même ailleurs. Des apparitions, plutôt des mirages, de pâles copies qui retardent l'enquête. Et voilà qu'apparaît une figure romanesque. La figure d'Arsène Lupin. Et la piste d'un cambrioleur de génie. Nous revoici dans la France de la Belle Époque, comme on dit. De la Belle Époque, mais plus pour longtemps. La guerre. La guerre de 14 se profile à l'horizon, comme une évidence. Les tensions ne cessent de croître. Mais il y a aussi de l'insouciance, oui, quand même, bien sûr. Et de quoi se réjouir et s'enthousiasmer. Ce mois d'août 1911, la presse ne parle pas seulement des tensions avec l'Allemagne ou de cette canicule meurtrière ou du vol de la Joconde. Marc Pourpre, après Blériot, vient d'accomplir un exploit. La traversée de la Manche, aller et retour. De Boulogne à Folkestone et retour. Il s'est posé, il a remis pour la première fois le courrier aérien au consul de France. Le premier courrier aérien venu du continent. Revenons au Louvre. Nous sommes dans le bureau que le commissaire Amar et l'inspecteur Lebrun ont aménagé sous les toits du Louvre. Amar a fait installer une ligne téléphonique pour éviter d'importuner le conservateur ou pour l'éviter, tout simplement. Le téléphone sonne. Il n'arrête plus de sonner. Et c'est quoi cette fois? C'est Lépine, le préfet.
Amar, est-ce que vous avez ouvert le journal ce matin? Ah, vous devriez, oui, vraiment, là ça vaut la peine.
Amar n'aime pas lire les journaux. Et il n'aime pas les journalistes d'ailleurs. Ils écrivent trop et trop vite. Peut-être que tout va trop vite d'ailleurs aujourd'hui.
Il n'y a pas que la Joconde qui a disparu, commissaire. Le journal parle d'une statuette phénicienne.
Le journal, le Petit Parisien. Il n'est pas vraiment étonné, Amar. Il avait dit la veille au conservateur que son musée était une passoire. Eh bien, voilà. Mais Lépine continue.
Non, mais c'était pas tout, hein, cher ami. Cette statuette, le journal a réussi à la récupérer. Son directeur, il l'a rachetée et il va la restituer au Louvre.
une statuette dérobée au département des Antiquités orientales, qui reprend le chemin du Louvre par l'intermédiaire d'un journal qui négocie avec le voleur. C'est pour ça qu'il n'aime pas la presse, Amar. Il faut qu'il se mêle de tout. Il faut que les journalistes jouent aux enquêteurs. Pour le meilleur, d'accord, mais aussi pour le pire. Lépine termine avec sa façon délicate de donner des ordres, sans en avoir l'air.
Je pense que vous devriez prendre contact avec le directeur du Petit Parisien, non ?
Est-ce que le voleur de la statue phénicienne serait aussi le voleur de la Joconde ? Le commissaire a beau s'en plaindre des journalistes, il va avoir des raisons de s'en satisfaire. Il est raccroché, il réfléchit. Il va falloir lui mettre la pression, directeur. Lui mettre la pression et lui passer de la pommade, le remercier, louer son journal, lui reconnaître les mérites des meilleurs enquêteurs, enfin, le genre de choses que les journalistes aiment entendre.
« Lebrun, appelez-moi le Petit Parisien et convoquez-moi le directeur, pas ici, hein, au 36. »
Quelques heures plus tard, quai des Orfèvres, nous voici dans le bureau d'Octave Amar avec Lebrun. C'est déjà fini. Le directeur du Petit Parisien quitte les bureaux de la Sûreté. Amar en sait assez. Il en sait assez pour se dire qu'il tient peut-être quelque chose. L'homme qui a pris contact avec le Petit Parisien s'est présenté comme le baron d'Ormezan. Enfin, il reste à le retrouver. Et ce n'est pas gagné. Sauf que le directeur du journal lui connaît une relation.
Je crois qu'il a logé chez lui.
Logé chez lui ? Logé chez qui ? Le directeur. Il hésite et puis...
Oh, ça va faire du bruit, hein, commissaire. Ça va faire beaucoup de bruit.
Mais il en a que faire, Amar.
Oh, bah écoutez, ça fait plus de 8 jours que ça fait du bruit. Même au Conseil des ministres, ça fait du bruit. Même à l'Élysée, ça fait du bruit.
Alors le directeur lâche.
Bon, eh bien, vous l'aurez voulu. Il loge chez monsieur Kostrovitsky.
Kostro quoi ? Chez Guillaume Apollinaire, commissaire. Il loge chez Kostrovitsky. Apollinaire, le poète. Ça oui, bien sûr, Amar connaît. Il n'est pas forcément amateur, non. C'est un original. L'ami des peintres, enfin, de l'avant-garde, comme on dit. Kostrovitsky. Il va donc falloir lui rendre une petite visite et peut-être plus. Kostrovitsky, Apollinaire. Il se met à table, comme ils disent au 36. Enfin, il lâche tout ce qu'il sait, et c'était pas si mal. Le baron d'Ormezan, c'est un certain Géry Pierret, un sujet belge. Il n'avait nulle part où aller. Apollinaire l'a fait coucher sur un matelas. Il l'a employé comme domestique et comme secrétaire. La tête phénicienne, il l'avait dans ses bagages quand il est arrivé, affirme-t-il, au mois de mai. Mais il est catégorique.
C'est un joueur, Pierret, c'est un voleur, oui, mais voler la Joconde, non, ça je ne pense pas, non.
Non, dit-il, le poète, mais qu'est-ce qu'elle vaut sa parole? Et il est où, à présent, son protégé?
Il a logé chez vous jusqu'à quand, votre Pierret?
Oh, le 21 août, il est parti dans la soirée.
Le 21 août, le jour du vol, est-ce que Amar en a assez?
Oui.
Oui, c'est bien. Il y a peut-être quelque chose. Et un quelque chose qui avance sans les expériences du docteur Bertillon, sans ses empreintes dont on ne tire rien. Est-ce que ça a servi à quelque chose, ce défilé interminable, pour apposer des doigts pleins d'encre sur des fiches? À rien. Elles n'appartiennent à personne, ces deux empreintes de doigts, ces deux empreintes de pouces. Mais Lebrun ne peut pas s'en empêcher. Il y croit, lui, à la science de Bertillon.
À moins que ce soit les pouces de Pierret, commissaire, non?
Mais ce n'est pas fini, non. Il y a mieux. Enfin, il y a plus ou pire. Ce n'est pas tout. 2 jours plus tard, au Louvre, dans le bureau de Amar et Lebrun, le téléphone sonne. Il sonne à peu près tout le temps. Ça ne s'arrête pas. Mais là, c'est autre chose. C'est le directeur du Petit Parisien, encore lui.
J'ai rencontré hier, à sa demande, Monsieur Picasso. Pablo Picasso, le peintre.
Amar, oui, il connaît Picasso. Oh, ce n'est pas vraiment son genre de peinture, mais bon... On en parle de Picasso, des cubistes. Ils ont eu les honneurs du Salon des Indépendants. On finira par ne plus parler que de ça, si ça continue. Et qu'est-ce qu'il voulait, Picasso?
Il voulait vous rendre la Joconde?
Le directeur du Petit Parisien, il sourit, il rit un instant.
Pas exactement, monsieur le commissaire. Il voudrait rendre des statuettes phéniciennes au Louvre.
Enfin, pas tout à fait des statuettes phéniciennes. des statuettes ibériques, mais peu importe. Bon, il va falloir rendre une visite à Monsieur Picasso. Une petite visite. Enfin, une visite, peut-être plus qu'une visite. Amarre, il remercie le directeur du journal, du Petit Parisien. Il raccroche. Reste un moment à réfléchir. Il a presque envie de sourire. Apollinaire, Picasso, c'est le sous-secrétaire d'État aux Beaux-Arts qui va être content. Quelques jours plus tard, nous sommes le 13 septembre, sur l'île de la Cité, rue de Lutèce, derrière le quai des Orfèvres. Amarre vient de recevoir une invitation du préfet de l'Épine. Voilà 3 semaines, à présent, que la Joconde a disparu. L'enquête ? Amarre a cru avancer. L'enquête s'est poursuivie en Belgique, sur les traces de Géry Pierret. Pierret, il a disparu. Il est introuvable.
Malgré les bons offices du procureur du roi de Bruxelles, monsieur le préfet.
Et notre artiste, Picasso ?
Picasso, il a manifestement livré tout ce qu'il a pu, tout ce qu'il savait, on dirait. Pierret est venu le trouver pour lui vendre 2 statuettes. Il prétend qu'il ignorait leur provenance. Il les a achetées. Et il s'est empressé de vouloir les rendre. Et à part ça, la Joconde reste introuvable. L'Épine soupire. Bien sûr qu'il est embarrassé. Tout le monde est embarrassé. La France est la risée de l'Europe.
Ah, au fait, Amarre, j'oubliais. Le conservateur du Louvre, le ministre, vient de signer sa révocation.
Enfin, ça ne vous concerne pas vraiment, mais...
Non, ça ne le concerne pas, Amarre. Mais quand même, il se dit que c'est une bonne chose.
Bon, d'accord, l'enquête piétine. Mais il ne s'agit pas de pointer l'enquête. Il faut d'abord désigner le mal. Et le mal, c'est bien la surveillance des musées, non ?
Et monsieur le sous-secrétaire d'État ?
L'Épine sourit. Le sous-secrétaire d'État aux Beaux-Arts. Amarre a posé la question, mais il connaît la réponse. Ils la connaissent tous les deux, la réponse. Il en faut plus pour faire sauter un ministre ou un secrétaire d'État ou un sous-secrétaire d'État. Oui, ça oui, beaucoup plus. Nous sommes à la fin du mois de septembre 1911. Le ciel, le soleil, l'air s'est adouci. C'est l'automne qui s'annonce. L'enquête du commissaire Amarre et de l'inspecteur Lebrun est dans l'impasse. La Joconde, introuvable. Et Pierret ? Introuvable lui aussi. Et les journaux ? Eh bien, les journaux continuent de présenter à leurs lecteurs les hypothèses les plus extraordinaires. Pierret aurait revendu la Joconde outre-Atlantique à un riche Américain. Le temps passe. Et L'Épine et Amarre et le sous-secrétaire d'État aux Beaux-Arts et le président de la République, est-ce qu'ils ne sont pas passés à autre chose ? Est-ce qu'on peut passer à autre chose ? La Joconde. Il s'agit de l'un des plus grands trésors nationaux. Mais que peut-on encore espérer ? Que peut-on espérer ? Que celui qui l'a volée essaie de la revendre ? Qu'elle réapparaisse, brusquement ? Ou qu'elle réapparaisse parce que celui qui l'a volée ne parvient pas à la vendre ? Nous sommes 2 ans plus tard. 2 ans, un peu plus. Nous sommes au mois de décembre 1913. Le téléphone sonne au 36.
Commissaire Amarre, c'est une communication de monsieur le préfet.
L'Épine, il a l'air presque joyeux. Il est même farceur. C'est pas vraiment son genre, L'Épine. Le petit homme sec, qu'est-ce qu'il a ? Il commence par une devinette, mais il abrège vite. Il sent que Amarre s'impatiente.
On a retrouvé la Joconde, mon ami.
Comme L'Épine a d'abord adopté un ton, disons, joueur, Amarre hésite. Il hésite un instant, mais L'Épine a repris son ton habituel. On l'a retrouvé en Italie, à Florence. Le tableau a été présenté à un antiquaire.
Non seulement on a retrouvé la Joconde, mais on a aussi retrouvé le voleur. Il s'appelle Perugia.
Vincente Perugia, un petit artisan qui avait travaillé à la pose des vitres sur les tableaux les plus précieux du Louvre. Perugia, c'est un homme simple, jusque-là inconnu des polices françaises ou italiennes. Un simple artisan. Oh, pas un grand voleur, non. Pas un voleur de génie, loin de là. Un petit homme
qui avait profité de la faiblesse de la surveillance pour décrocher le tableau et partir.
Il aurait volé le tableau pour, tenez-vous bien, le rendre à l'Italie et le rendre à Florence pour qu'il retrouve sa place.
Il l'aurait volé par patriotisme. Mais Lépine, qui a retrouvé son sérieux, ne peut s'empêcher de poser une question. Une question, disons, embarrassante au commissaire Amar.
Il y a cependant une chose que je ne m'explique pas, Amar. Vous avez bien relevé les empreintes de tous les gardiens, ouvriers, artisans qui étaient attachés au Louvre, n'est-ce pas? Vous avez soumis ces empreintes à Bertillon?
Amar reste sans voix. Il paraît embarrassé. Bertillon? Est-ce que tout le monde y est passé? Aux empreintes? Il n'en sait rien. Les expériences de Bertillon, il n'aime pas trop ça. Il n'a jamais vraiment aimé ça. Il n'y croit pas, c'est tout. Est-ce que le docteur Bertillon aurait oublié Perugia? Lebrun lui avait signalé deux ou trois artisans qui manquaient à l'appel, mais on leur avait envoyé une nouvelle convocation, n'est-ce pas? Enfin, peut-être. Le commissaire ne sait plus. Mais Lebrun avait dû s'en charger, ce n'est pas possible. Finalement, on dirait qu'il n'y a pas qu'au Louvre qu'il y a des failles, des faiblesses. Amar s'éclaircit la voix. Il retrouve ses moyens et charge Bertillon, tout simplement.
Oui, monsieur le préfet. J'imagine qu'il y aura eu une défaillance du côté du relevé des empreintes. Donc j'interpellerai Bertillon, comptez sur moi.
De toute façon, les empreintes digitales, il n'aime pas ça, Amar. Décidément, il n'aime ni ce siècle, ni ses innovations étranges.
Une histoire, 36 Quai des Orfèvres.
Jean-Louis Lahaye.
Jérôme Nebrouwer, bonjour.
Bonjour Jean-Louis.
Vous enseignez l'histoire du droit et de la justice à l'ULB. Ici, il s'agit d'un vol ordinaire, d'un objet extraordinaire, parce qu'on est quand même loin d'un Arsène Lupin. C'est pas un Lupin, ce Pérugien.
On est très loin d'un vol très ingénieux, effectivement. Ce qui fait la une dans la presse, ce n'est pas tant l'objet. Enfin, si, bien sûr, c'est une œuvre d'art majeure, on en parle. Mais ce qui va faire la une de la presse, c'est ce scandale de l'insécurité dans les musées. En fait, on entre dans ces musées comme dans un moulin et on en repart avec un tableau sous le bras.
Et puis, il y a aussi une enquête qui ne paraît pas tout à fait menée dans les règles de l'art.
Alors, effectivement, les employés, les ouvriers sont soumis à la position de leurs empreintes, leurs empreintes digitales. C'est la dactyloscopie qui se développe dans le cours de ce début du XXe siècle. Et on voit que ça connaît certains ratés. Alors, Perugia est convoqué pour venir apposer ses empreintes. Et en fait, il ne vient pas. Il est reconvoqué, il ne vient pas. Et on ne va pas s'en inquiéter plus que cela. C'est ça qui est étrange. Il y échappe. Alors que pourtant, il a commis des infractions et il est fiché à l'identité judiciaire.
Et ça, c'est un autre scandale. Et puis, les empreintes de Perugia auraient permis de l'identifier comme le voleur. Comment peut-on expliquer que Perugia y échappe?
Il y échappe sans doute parce que la dactyloscopie n'est pas encore considérée comme elle devrait l'être en ce début du XXe siècle. Il faut dire par ailleurs que Octave Amar, celui qui mène l'enquête, n'est pas tout à fait en bon terme avec celui qui développe la dactyloscopie en France, Bertillon. Donc voilà des ratés de l'enquête, d'une part, et un scandale autour de l'insécurité des musées.
Merci Jérôme Nebrouwer, et puis je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de 36 Quai des Orfèvres.
La première.
Un crime, une histoire, 36 Quai des Orfèvres.
Jean-Louis Lahaye.